Bonjour, bienvenue aux Voix de service. C'est notre dernière émission avant l'année 2019. Nous entamons la dernière semaine de Canal M avant la nouvelle année. Avec moi, c'est Diane Pilote au micro. Avec moi ce matin, j'ai Serge. Premier tour de table. On parle de quoi, Serge, ce matin?
Ah, on va parler des jeux et jouets pour le temps des fêtes.
Pour les grands et les petits?
Les grands et les petits.
Merci. Jean-Charles?
Oui, allô. Moi, je vous parle d'un texte que j'ai retrouvé sur le site de Radio-Canada qui m'a beaucoup impressionné. Fait que j'espère que ça va vous allez avoir le même effet.
Oh, surprise. Et Roger?
Oui, moi, je vous parle des personnes les plus influentes du Québec selon le journal, la revue, le magazine d'actualité. Marathonien un peu spécial, marathonien du thé.
Pour ma part, dans la première partie de l'émission, je fais voyager les auditeurs en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. C'est une demande que nous avons reçue de nos auditeurs.
Beau pays.
Alors, les bébelles, Serge.
Oui, Père Noël, dans une semaine.
Ben oui.
Alors, on se prépare. OK, vous avez pas acheté vos cadeaux.
Non.
Alors, procurez-vous la revue Protégez-vous et ils vont vous dire quoi acheter. C'est
nous
merveilleux. Je vais vous en parler.
Oui.
Je peux pas vous parler de tout parce qu'il y en a des centaines. Mais il y en a des meilleurs que d'autres. Il y a les jeux de science et de technologie, entre autres. Les jeux scientifiques sont-ils tous amusants et instructifs? Non. Eh bien, découvrez lesquels feront les meilleurs cadeaux. Alors, Protégez-vous a parcouru les sites web des boutiques de jeux et jouets pour choisir 27 jeux de science et de technologie dont les prix varient entre 15 et 250 $. Et tous permettent d'expérimenter concrètement les sciences et technologies grâce à différentes manipulations, constructions ou observations en chimie, en physique, en robotique, en biologie, en cristallographie, etc., etc.
Nouveau mot.
Alors, les jeux s'adressent principalement aux jeunes du primaire âgés de 8 ans et plus jusqu'aux ados de 14 ou 15 ans. Alors, si nos auditeurs veulent offrir des cadeaux, eh bien, la revue Protégez-vous va vous indiquer lesquels choisir.
Non, Serge va nous
c'est
indiquer
bon?
Lesquels
ben
ouais,
choisir. Oui, mais pas tous, parce que moi, là, écoute, j'en ai, ça finit plus. Et puis, il faut que je vous les décrive, les dépeigne, les commandes.
Les décortiques.
Bon, alors, je suis mieux de commencer tout de suite. Hein. Alors, 4 produits du test possèdent un logo STEM, ou STIM en français, pour sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Ce sceau indique que le produit a été conçu pour développer la pensée scientifique ou qu'il contient des notions de science et technologie. Mais il faut toutefois le prendre avec un grain de sel. Plusieurs produits qui ne portent pas la mention sont plus riches en contenu de STEM que d'autres qui l'affichent. Alors, voyez-vous. Alors, par exemple, mon atelier de mécanique Roadster de Clementoni renferme bien un peu de contenu STEM en comparaison du livre Jeux, réactions en chaîne de Klutz et sans logo. Bon, alors ici, on met des catégories. Il y a des bons, puis il y a des très, très bons, puis il y a des acceptables, et puis il y a des, par exemple, des excellents. Un excellent, 77 $ quand même, on ne s'est pas donné. OK? Est-ce qu'il y en a un moins cher? Un excellent à 27 $.
C'est bon. Hein?
Voulez-vous que je vous le mentionne?
Ben oui.
Eh bien, c'est un Lego. Qui ne connaît pas les Lego? Ce livre-jeu comprend les instructions et le matériel. Bon, alors, c'est des Lego. Vous savez, ça s'appelle Klutz. K-L-U-T-Z. Ensuite de ça, il y a mon atelier de mécanique, Roadster et Dragster. Alors, 31 $. Ça, c'est à partir de 8 à 10 ans. C'est un peu trop jeune pour vous, ça, Martin. Hein? Ce jeu de plus de 130 pièces propose de construire 2 véhicules, une moto, Roadster, et une voiture de course d'accélération, Dragster. Et l'ensemble de très bonne qualité se compare à un Lego de la série technique comportant des systèmes fonctionnels, direction, moteur, suspension, transmission, etc., etc. Et suivre le plan demande une bonne concentration car beaucoup de pièces s'ajoutent au fil des étapes. Et nos débrouillards, ceux qui ont fait les tests pour la revue Protégez-vous, les débrouillards, ont été impressionnés par le résultat final. C'est merveilleux, hein? Les cristaux, ça je ne connaissais pas ça, hein? Très bon. 47 $ à partir de 8 ans avec cet ensemble qui contient de nombreux accessoires, contenants, produits, pinces, colorants, pierres, gants et lunettes de protection, permet de s'amuser avec la cristallisation. On peut même faire de la cristallisation dans des aquariums. Ah, c'est de toute beauté. Alors ça s'appelle les méga cristaux et on dit que c'est très bon. C'est bon? Alors, écoutez. Alors, les experts ont aimé les explications du jeu, très bien vulgarisées pour les jeunes, ainsi que l'introduction au concept de cristallographie, de saturation, de solvant et de soluté. Alors, voyez-vous que ça a évolué depuis...
Des heures de plaisir de pour les enfants, mais des heures de calme pour les parents, c'est ça?
Mais ça dépend si le cristal cristallise.
Oui, merci, Serge. Alors, la surprise de Jean-Charles.
Oui, bien écoutez, comme je le disais, un article paru sur le site de Radio-Canada le 11 décembre, produit par l'agence Franche-Presse. Les entrailles de la Terre grouillent de vie. Environ 70% des microbes de la Terre vivent dans ses profondeurs, dans des roches autrefois considérées comme stériles, mais où abondent bactéries et autres organismes unicellulaires. Pour la première fois, les chercheurs ont estimé l'ampleur de cette vie profonde dite intraterrestre. Des centaines de chercheurs internationaux membres du Deep Carbon Observatory, excusez-la, ont publié à l'occasion du sommet américain de la géophysique à Washington la somme de leurs travaux, estimant que la vie profonde représentait une masse de 15 à 23 milliards de tonnes de carbone, soit 245 à 385 plus que celle des humains à la surface. Cela n'avait jamais été quantifié. Auparavant, la communauté scientifique ne disposait que d'observations ponctuelles. Les chercheurs de cette collaboration internationale de 10 ans ont réalisé des centaines de forages sous les continents et les océans. Écoutez bien ça, un bateau japonais a foré 2,5 km sous le plancher océanique, lui-même à 1,2 km sous la surface, capturant dans ses carottes des microbes jamais observés auparavant vivant dans une couche de sédiments vieille de 20 millions d'années. Les microbes vivent partout dans les sédiments, ils sont là et attendent. On ne comprend pas encore le mécanisme pour leur survie à long terme, selon Fumio Inagaki de l'Agence japonaise pour les sciences marines de la Terre. Ces organismes vivent des kilomètres sur la surface dans la croûte terrestre et ont apparemment évolué séparément de la vie en surface. Ce sont de nouvelles branches de l'arbre de vie qui existent sur Terre depuis des milliards d'années sans qu'on ne les ait jamais remarquées, dit Karen Lloyd de l'Université du Tennessee. C'est comme si vous veniez de découvrir soudain un collègue de bureau en vous retournant. Les roches, ces microbes sont principalement des bactéries et des archées, des micro-organismes unicellulaires. Certains sont zombies. Ils utilisent toute leur énergie à survivre sans aucune activité dans des poches isolées de la surface depuis des temps immémoriaux, des dizaines de millions d'années. Soumis à une pression extraordinaire et privés de nutriments, ils ne se reproduisent pas, n'ont aucune activité métabolique pour se réparer, par exemple. D'autres bactéries ont une activité et fascinent les biologistes car elles fonctionnent dans un système qui n'a rien à voir avec la surface où toute la chaîne alimentaire dépend de la photosynthèse qui fait pousser les plantes et permet à un ensemble d'organismes de se nourrir. Leur source d'énergie n'est pas le soleil ni la photosynthèse, dit M. Benez, responsable de l'équipe de GMIO Microbiologie de l'Institut de physique du globe de Paris. Ici, ce qui fait démarrer les communautés, c'est la chimiosynthèse. Les microbes tirent leur énergie des roches quand les roches s'altèrent, me dit M. Menez, responsable de l'équipe. La vie profonde reste un formidable mystère scientifique. Comment les microbes se répandent-ils en sous-sol? Sont-ils descendus de la surface ou venus de l'intérieur de la Terre? Jusqu'à quelle profondeur trouve-t-on du vivant? Quelles sont les sources d'énergie principales? Le méthane, l'hydrogène, les radiations naturelles? Ces questions nous concernent, insistent les chercheurs. Par exemple, les scientifiques ne savent pas encore si la manière dont la vie souterraine affecte la vie en surface et vice-versa, dit M. Caldwell de l'Université de l'Oregon. Les humains accumulent les projets d'exploitation du sous-sol profond, par exemple, pour stocker du CO2 ou enfouir des déchets nucléaires. Jusqu'à présent, ces projets considéraient que les profondeurs étaient globalement stériles, dit M. Menez. Mais les interactions sont sans doute sous-estimées. Il y a une vraie prise de conscience de cet impact du vivant très profond de la Terre, dit-elle. Savoir que des microbes vivent à des niveaux de pression et de température extrêmes, peut nous aider à mieux chercher sur d'autres planètes, dit Mme Caldwell, qui enseigne la discipline d'astrobiologie. Fait que voilà.
Ah, merci Jean-Charles.
Il y a des bibites à patates qui circulent dans mon jardin. Il y a des bibites à mille pattes, sans oublier les maringouins. Les thons, les abeilles, les mouches se sont emparées de mes fleurs. Et tous les soirs quand je me couche, les bibites sont ma terreur. Heureusement, il y a l'hiver pour congeler les bibites. Je leur planterai des croix dans mon parterre. Yeah, 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 yeah. Les fourmis et toute leur famille sont venues sans invitation dans ma cour où elles s'éparpillent, chacune dans sa petite maison. L'araignée et sa grande chambre de son monde à sur mon pied nu. J'y pense aujourd'hui et j'en tremble. Des bibites, j'en ai assez vu. Heureusement, il y a l'hiver pour congeler les bibites. Je leur planterai des croix dans mon parterre. Nya, 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 nya. J'aime les fables de la fontaine, mais la cigale et la fourmi, je crois qu'elles n'en valent pas la peine. On me gronde car ça m'ennuie. Les cousins, les mantes religieuses et tous ces genres de fourmillons, je passe des journées affreuses à chasser tous ces pucerons. Heureusement, il y a l'hiver pour congeler les bibites. Je leur planterai des croix dans mon parterre. Nya, 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 nya. J'ai sorti mon insecticide, je suis vraiment déterminée. Mettre un bibiticide, la guerre va bientôt commencer. Je vais les tuer une à une, les papas, les mères, les enfants. Il n'y aura pas de lacune, je les aurai d'ici peu de temps. Heureusement, il y a l'hiver pour congeler les bibites. Je leur planterai des croix dans la terre.
C'est retour en 1969 avec Caro. On a délaissé les fonds marins pour parler des bibites qui sont bien sur Terre avec notre insecticide.
Bzz. Oui, vraiment un souvenir d'enfance parce que cette chanson. Alors, je passe la parole à Roger.
Oui, il n'y a aucun lien entre le sujet
entre les bibites et les personnes influentes.
Ce que je veux dire maintenant, là. Les 100 personnes.
Des fois, ce sont de drôles de bibites, ces personnes influentes.
J'aurais pas osé dire ça, mais bon. C'est dans l'actualité du mois de janvier qu'on trouve ce texte. C'est l'équipe de rédaction de l'actualité qui a préparé cette liste. Je ne vous donnerai pas tous les noms, il y en a 100. Mais je vais faire un survol. Je vais vous dire comment on les a choisis. Nous avons bâti notre liste selon deux principes de base. Les personnalités y figurant devaient jouir d'une influence transcendant leur milieu et s'étendant à toute la société. Et, deuxièmement, cette influence devait s'exercer au Québec. Ainsi, une sommité scientifique ne se faisant pas entendre hors de son domaine d'expertise n'était pas retenue. Idem pour les Québécois actifs à l'étranger, mais peu présents dans la province. Ce qui ne veut pas dire que leur travail n'a pas de mérite, bien au contraire. Seulement qu'il s'illustre d'une autre façon que celle que notre palmarès cherche à mesurer. Voici les trois critères qu'ils ont retenus. Le pouvoir de l'institution à laquelle est liée la personne. Deuxième critère, le charisme et la personnalité de la personne. Et ensuite, dernier critère, la proaction de la personne. Le pouvoir de l'institution, évidemment, le premier ministre recueille le pointage maximal pour ce critère puisqu'il dirige le gouvernement qui a une influence dans toutes les sphères de la société. C'est aussi vrai pour des organisations fortes comme la Caisse de dépôt, Hydro-Québec et certains médias. À l'inverse, un artiste ne représente souvent que lui-même. Le charisme et la personnalité, ce sont des atouts intangibles et puissants qui permettent d'influencer son prochain, par exemple un leader naturel comme Pierre Lavoie ou un artiste qui sait émouvoir comme Fred Pellerin trouveront naturellement une audience. La proaction ou la volonté de changer les choses, de remettre en question le statu quo ou de s'impliquer au-delà de sa sphère d'activité naturelle Autrement dit, est-ce que cette personne utilise sa position, sa popularité ou ses aptitudes pour agir sur la société? C'est sur la base de ce critère que certaines personnalités très aimées du public, comme Céline Dion ou Michel Tremblay, ont été écartées du classement, alors que d'autres moins connues, Martin Koskinen, je vous en parle dans un instant, Sophie Brochu, s'y trouvent en bonne place. Les dix premières personnes du palmarès, je vous le donne celle-là. En première position, François Legault, premier ministre du Québec, et la deuxième, Justin Trudeau. En troisième position, Guy Lepage. Quatrième position, Michael Sabia, qui est le PDG de la Caisse des dépôts et de placements du Québec. Cinquième position, Éric Martel, qui est le PDG d'Hydro-Québec. Ensuite, Valérie Plante au sixième rang, Pierre-Carl Pelado au septième rang, Jeff Molson au huitième rang, Régis Labeaume au neuvième rang et, surprise, au dixième rang, Martin Koskinen, K-O-S-K-I-N-E-N. C'est le conseiller stratège et ami et confident de François Legault. Il est l'alter ego de François Legault. Une symbiose, je parle alter ego politique évidemment, une symbiose rarement vue aux plus hauts échelons du pouvoir, rien d'important au gouvernement, ne se décide sans lui. Sur la liste des 100 personnes les plus influentes du Québec, selon l'actualité, il y a 29 femmes et 71 hommes. Après Valérie Plante, la plus haut placée dans l'énumération, c'est Véronique Cloutier, et qui est au 14e rang, puis au 19e et 20e rang, Diane Francoeur, présidente de la Fédération des médecins spécialistes, et Louise Lantagne, qui est PDG de la Société de développement des entreprises culturelles du Québec. Ensuite, il y a l'influence selon l'âge. On a fait des statistiques là-dessus, si je peux tomber dessus. Alors, 21 de ces personnes sont dans la soixantaine, 2 dans la soixante-dizaine, dans la cinquantaine, 47 personnes, 19 dans la quarantaine, 6 dans la vingtaine et 5 dans la trentaine. Dans l'influence et le champ d'activité maintenant, où on les retrouve, ces gens-là, les personnes les plus influentes du Québec, il y a 25 qui sont dans les médias, 17 en politique, 18 en culture, 2 en justice, 17 du monde des affaires, 1 dans le monde du sport, il y a la philanthropie, 2 personnes, groupe de pression, 10. Et pour terminer, à la toute fin de la liste, si je peux me permettre, parce qu'il y en a 100, là, je vais vous aller au centième, c'est une personne que vous ne connaissez pas, que je ne connaissais pas moi non plus, et c'est Dominic Brown, qui est président de Chocolat Favori, c'est peut-être pour le temps des fêtes. Il est passé de l'industrie du jeu vidéo au cornet trempé dans le chocolat. L'entrepreneur ne manque pas de front, il est ambassadeur infatigable de la ville de Québec et il n'hésite pas à dénoncer les besoins criants de main-d'œuvre et le manque d'immigrants dans sa région, un discours qui détonne.
Merci Roger. Nous ne faisons pas partie de cette
liste.
Non,
j'ai cherché, mais...
Dommage.
Il y en a plusieurs. Mais...
Alors, le tour du Québec, je vous amène aujourd'hui en Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. Au départ, je vous parle du festival en chansons de Petite-Vallée. Pour se rendre à Petite-Vallée, on passe par de magnifiques villages de bord de mer, si beaux qu'ils nous resteront en tête pour toujours. Mont-Louis et Mont-Saint-Pierre sont à couper le souffle. Si le festival en chansons a vécu un grand deuil l'an passé en perdant son centre névralgique, le théâtre de la Vieille Forge, proie des flammes en nous, son âme ne pourra jamais disparaître. Le festival est une expérience chaleureuse au possible, autant pour les artistes, nombreux sont des habitués, que pour les spectateurs qui profitent de spectacles en après-midi et en soirée. En attendant la construction du nouveau théâtre, l'événement se tiendra dans un immense chapiteau au bord de la mer et le village voisin de Grande-Vallée accueillera aussi son lot de concerts. On poursuit à Cap-aux-Meules. C'est magnifique. Si vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez pas. Les pas perdus. Sur le chemin principal à Cap-aux-Meules. En bon urbain, vous assumez votre dépendance à votre café bistrot du coin. Le revers de la médaille, c'est que quand vient le temps d'une belle escapade, par exemple aux îles de la Madeleine, vous craignez de ne pas retrouver l'équivalent de votre refuge pantoufle. Pas de panique. Au resto Les Pas Perdus, vous pourrez confortablement vous installer dans cette formule et prouver que vous appréciez tant, mais version atlantique. Et les ingrédients de la place ne se retrouvent pas que dans votre verre, votre assiette ou votre tasse. Artistes et artisans du coin colorent au propre comme au figuré ce point de convergence par excellence de l'archipel. Il y a même moyen de dormir sur place, en plus, l'établissement proposant 6 chambres, à condition de se lever de bonne heure, pour réserver. Et le traversier, et les hôtels, et tout, et tout. Faut s'y prendre d'avance pour aller aux Îles-de-Madeleine. Maintenant, je vous amène à Percé, sur la rue de l'Église. Et je vous invite aussi à aller voir, je vous donnerai le site web de cet artiste, c'est Oiseau, W-A-Z-O. Si vos cadeaux de Noël ne sont pas terminés, je vous invite. Quand l'obsession pour les garnottes en tout genre s'exprime à travers les doigts d'un artiste sorcier, le résultat étonne avec Maestra. Se rendre à Percé sans rencontrer Oiseau serait une grave erreur. D'abord, il y a l'homme doué d'une friabilité, d'un instinct et d'un magnétisme épeurant. Puis, le joaillier de génie, alchimiste, capable de dompter le corail, les grands ducs et les noisetiers. Créatif jusqu'au bout du souffle, Oiseau arrive mystérieusement à amalgamer, autant dans ses bijoux que dans son atelier boutique, élégance et pureté, exubérance, contraste et vertige. Peu d'artisans entrepreneurs réussissent à valser avec autant de brio entre le beau tumulte des visiteurs qu'il accueille affectueusement chez lui et les exigences techniques de la fabrication de ses bijoux, véritable hommage portatif à l'impétuosité de la nature, immanquable. Pour ceux qui iront à Percé cet été, donc c'est sur la rue de l'Église, la boutique Oiseau, et j'invite les auditeurs à aller visiter son site web, c'est une boutique en ligne également, c'est Espace Oiseau en un mot, donc espacewazo.com. Vous allez voir, les bijoux qu'il fait sont magnifiques. Et voilà, c'était pour vous inciter à aller visiter cet été Gaspésie et de la Madeleine.
Il y a au fond de la mer des montagnes, des ravins, des villes, des cimetières. Il y a des épaves dans la mer, dans le creux, parmi les joncs aux grands doigts. Il y a des hommes dans la mer, des femmes qui dorment, il y a des enfants dans la mer. Pour couvrir tout cela, il y a des vagues sur la mer. Des écumes aussi, des écorces, des lettres déchirées, des fleurs à la dérive. Il y a des oiseaux au-dessus de la mer, de grands oiseaux blancs avec des yeux comme des gouttes d'eau. Des oiseaux sans voix qui tournent en rond le bec ouvert, qui piquent soudain dans les flots immenses, les ailes collées le long du corps comme deux bras qui bruissent en s'égouttant. Il y a des grèves autour de la mer, des coquillages et du sel, et de vieux marins qui ne voguent plus, qu'on a débarqués, mais qui sont repartis dans des voyages sans escale. Il y a le soleil sur la mer, et toi au bord, qui le regarde descendre.
La sublime voix de Félix Leclerc et la Gaspésie.
Merci Jean-Sébastien qui est à la régie. Alors, on a quelques brèves pour terminer cette première partie de l'émission.
Oui, alors en voici une. Google enlève ça. Les autorités canadiennes demandent tous les mois à Google de retirer de l'information de ses diverses plateformes, que ce soit pour des raisons de fraude, de sécurité, de diffamation, d'obscénité ou autre. Une seule de ces requêtes a été acceptée par l'entreprise californienne. Laquelle? Je vous en donne 4. La première, c'est retirer une vidéo YouTube montrant un citoyen canadien urinant et tirant la chasse d'eau sur son passeport. B. Retirer un billet de blog critiquant les positions d'un politicien canadien. C. Retirer 242 résultats de recherche dirigeant vers des sites qui offrent des produits créés en utilisant les secrets industriels d'une entreprise. Ou D. Retirer des articles sur une enquête liant le groupe libanais Hezbollah à un homme qui a ensuite été acquitté. Alors, lequel de ces trois?
J'espère que c'est C.
C.
Protégeons la propriété intellectuelle de nos entreprises.
Exactement. C'est blog, c'est Google.
Ah!
Hein? Vous avez vu très juste. Ouais. Les autres ont été acceptés, il n'y a pas de problème. Bonne.
Donc, le passeport dans l'urinoir, ça allait.
Ah, ça, il n'y a pas de problème.
Serge.
Oui, bien, alors,
vous voulez nous faire dépasser. Hein?
Écoutez, alors, voilà. Le jeu de chimie, tout le monde a eu ça quand on était petit. Hein, c'était cute au bout de 43 $ à partir de 8 à 12 ans. Ensemble d'expériences pour débutants comprenant des accessoires de très bonne qualité, dont un thermomètre, une fiole en verre, des pinces, des lunettes de sécurité, 4 éprouvettes et quelques réactifs. Et sa particularité est d'utiliser des produits courants de la maison et sans danger. Et parmi les 3 ensembles d'expériences de chimie testées, ce jeu est le préféré de nos experts. Un jeu de chimie qui s'appelle Buki.
Merci.
B-U-K-I France. Et il y a l'autre. Ça, j'aime ça. La Meteor Rocket. En anglais, ça s'appelle The Meteor Rocket. Ce jeu permet de faire décoller une fusée d'environ 45 cm construite à partir d'une bouteille de feuilles de plastique et d'une feuille autocollante argentée. Et l'engin sera propulsé grâce à une réaction chimique entre le bicarbonate de soude et le vinaigre qui dégagera dans la bouteille refermée du gaz carbonique. Ce qui est bon à savoir, c'est que ça demande un espace dégagé comme un terrain de baseball ou de soccer. Ne faites pas ça dans le salon chez vous. Prévoir suffisamment de vinaigre, un 2 litres et de bicarbonate de soude, la boîte de 500 grammes pour réaliser plusieurs décollages. C'est beau?
C'est bon, c'est...
Ah, c'est le fun. Est-ce qu'il y a un autre cadeau que vous aimeriez connaître?
On va faire dépenser les auditeurs.
Attendez une minute, là, aussi. Ouais, la lévitation magnétique anti-gravité, toi. Oh, wow! C'est ensemble de 5 expériences rapides et amusantes sur le magnétisme. Chacune demande de réaliser un montage, environ 5 minutes, après quoi l'on peut observer les effets du magnétisme, notamment en faisant flotter un crayon dans le vide. On peut faire flotter un crayon dans le vide en construisant une sculpture qui défie la gravité ou en regardant un ovni au comportement étrange. C'est bon, ça?
C'est bon. Et Roger, il y en a une petite dernière.
Une petite dernière. Les Chinois sont de l'avant-garde. Hein. Ils veulent créer une deuxième lune, imaginez. La ville de Chengdu, en Chine, songe à remplacer ses lampadaires par une lune artificielle, un satellite qui projetterait une lumière douce dans un diamètre circonscrit allant de 10 à 80 km. Selon le directeur de l'entreprise à l'origine du projet, la fausse lune pourrait être mise en orbite en 2020.
Ben, c'est bon,
c'est quelque chose. Hein?
Quelques petites questions. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on parlait des francophones au Canada. Il y en a 21,4 %. Ben, à Terre-Neuve, il y en a 3,3 %. Tout simplement, c'est pas beaucoup. La colonie française qui a pris racine dès 1660 à Plaisance. En 1713, elle passa aux mains de la Grande-Bretagne. Mais la France conserve des droits de pêche à l'ouest et au nord jusqu'en 1904. Au 19e siècle, les Acadiens s'installent sur la côte. Ils sont 3 000 aujourd'hui seulement. Voilà. Moi, je trouve qu'on a le plus bel indicatif musical ici. Alors, petit tour de table pour cette deuxième partie.
Ben oui, alors, un retour en enfance, les jouets indémodables. Je vais vous parler de ça, moi.
Jean-Charles?
Et pour ma part, je vais vous parler de l'homéopathie.
Merci. Et Roger?
Je suis devant un café, mais je vais vous parler du thé.
C'est bon. Oui, puis moi, bon. Je termine cette émission avec le plus beau cadeau. C'est une chronique de Émilie Dubreuil dans Le Voir.
Oui, voilà, je vous parle de l'homéopathie. Ça s'intitule « Le début de la fin ». C'est dans la revue « Science » de Evie du mois de novembre. Un texte de Marie-Catherine Mera. Ça concerne la France, mais j'ai trouvé informatif comme texte, que je vous le lis. L'homéopathie est dans la tourmente en France. Alors que le ministère de la Santé s'interroge sur le bien fondé de son remboursement, effectif depuis 1965, certaines universités de médecine annoncent qu'elles ne veulent plus l'enseigner, tandis qu'une tribune de plusieurs centaines de médecins dénonçant une pratique dénuée de tout fondement scientifique continue de mettre le feu aux poudres. Les principes thérapeutiques. L'homéopathie se fonde sur 3 principes, dont 2 sont hautement contestables. Le premier, c'est celui de la similitude. Stipule que ce qui peut rendre malade à forte dose peut guérir à faible dose. Un tel principe n'a jamais été démontré. Le deuxième est encore moins plausible, suivant le principe de l'infinitimalité. Les remèdes sont préparés par dilution successive d'une substance végétale, minérale ou animale. Et plus la dilution est grande, plus le remède est paradoxalement puissant. Le plus surprenant, c'est que les diluants sont parfois tels qu'il ne reste statistiquement plus d'aucune molécule de la substance active. Ici, l'étonnant de l'homéopathie a que même le principe actif, si le principe actif est absent dans la granule, l'eau qui a servi à la dilution transmet l'effet du médicament. C'est la célèbre thèse de la mémoire de l'eau dont les arguments physico-chimiques sont considérés par la communauté scientifique comme totalement fantaisistes. Seul le dernier principe de l'homéopathie, celui de l'individualisation, paraît sensé. Les homéopathes avancent ne pas soigner uniquement les symptômes d'un patient, mais appréhender chaque fois l'individu dans sa globalité. Donc, une efficacité qui se résume à l'effet placebo. Alors, comment expliquer la confiance des Français dans l'homéopathie? Selon un sondage mené en 2016, elle atteignait 73%, dépassant la confiance des vaccins, 79%. Outre une méfiance grandissante à l'égard des médecins associés aux grandes firmes pharmaceutiques, la réponse est peut-être à trouver du côté de l'effet placebo par le truchement d'une consultation personnalisée. De plus, l'homéopathie rencontre un grand succès pour lutter contre des maladies courantes comme le rhume, pour lesquelles les patients consultent ou s'achètent des traitements au moment où les symptômes sont les plus gênants. La coïncidence temporelle entre la régression des symptômes et l'administration des granules convainc nombre d'entre eux d'une efficacité propre au traitement homéopathique, alors qu'il s'agit de l'évolution naturelle de la maladie qui débouche sur les guérisons. Le maintien ou non du remboursement dépend de la valeur que le système de santé français attribue à un placebo dans la stratégie thérapeutique. Quand même, si l'homéopathie n'a qu'un effet placebo, celui-ci est bigrement efficace, comme l'a révélé une vaste étude épidémiologique. Ces résultats indiquent que les patients soignés en homéopathie consomment deux fois moins de médicaments et coûtent ainsi 35% moins à l'assurance maladie. Mais pour certains, il ne semble donc pas très sérieux de brandir l'unique effet placebo pour justifier le remboursement. Alors, après le Royaume-Uni qui a annoncé l'an dernier la fin du remboursement de l'homéopathie, la France va-t-elle franchir le pas? En 2004, l'Académie nationale des médecins lançait une offensive pour un déremboursement total. Mais face à des laboratoires pharmaceutiques puissants et influents et à une opinion publique plutôt favorable à l'homéopathie, le statu quo a été jusqu'ici privilégié. La donne va-t-elle changer? Rien n'est moins sûr. La Suisse, qui a pourtant clairement établi que l'homéopathie n'avait aucune efficacité propre, elle l'avait retirée de sa liste des thérapies prises en charge par l'assurance maladie en 2005, a décidé en 2012 de rétablir son remboursement suite à un vote populaire. Mettons qu'avec le gouvernement Macron, je ne sais pas s'ils vont s'attaquer à cette situation-là qui est quand même populaire.
Oui, il démutualise la plupart des services professionnels en France présentement. Roger, vous nous entraînez dans un marathon de thé?
Oui, oui, on court pas trop vite.
OK, non, c'est bon.
C'est un article que j'ai retrouvé dans le bel âge du mois de décembre, signé par Linda Priestley. Quelqu'un veut du thé? Si Kevin Gascoigne était dans les parages, il répondrait certainement oui. Habitué à en boire du matin au soir. Le dégustateur-importateur de Camellia sinensis jure d'ailleurs que c'est grâce à cette boisson qu'il a trouvé un sens à sa vie. Il est né en Angleterre où les nourrissons sont sevrés avec du thé, lance-t-il à la blague. Kevin Gascoigne n'envisageait pourtant pas de travailler plus tard dans ce domaine. Adolescent, je prenais surtout plaisir à parcourir le monde, sac au dos, afin de trouver la tasse de thé parfaite. Pendant des années, l'explorateur butine d'un jardin à l'autre, sirotant des infusions de feuilles de théier fraîches. Il affectionne particulièrement les thés de l'Inde et des montagnes himalayennes qui me ressemblent par leur vitalité et leur finesse. Signe d'humilité un peu. Pour financer ses voyages, il rédige des articles sur le sujet et lance son propre commerce de thé noir. Les amateurs de café me pardonneront la prononciation, le Darjeeling. Oui. Après avoir élu domicile à Montréal, il cogne un beau jour à la porte de Camellia sinensis, attiré par la philosophie et le côté bohème de ses fondateurs, également théinomane. Il leur propose de mettre à contribution sa vaste connaissance des thés indiens et ses aptitudes à en détecter les notes et les arômes subtils, comme on le fait pour le vin. Marché conclu. Chaque printemps, depuis 25 ans donc, Kevin Gascoigne se rend au pays des Maharajas, au Sri Lanka et au Népal pour goûter pas moins de 1000 thés. Il en retient une dizaine pour leur parfum et leur originalité qu'il ajoute ensuite à son catalogue. Un travail méticuleux qui lui a valu de remporter en juin dernier deux prix aux World Tea Awards, dont celui de la meilleure maison de thé au monde. Il l'avoue, l'obsession du thé et de tout ce qui y touche de près ou de loin l'habite. J'aime découvrir sa complexité en bouche, son histoire, les traditions qui l'entourent, les valeurs du producteur et sa façon de cultiver. Chaque gorgée est une révélation fascinante. À 52 ans, notre gentleman du thé est aussi emballé qu'autrefois par cette profession excentrique, à mi-chemin pour lui entre le travail et le passe-temps. J'ai la chance de rencontrer au quotidien des gens qui partagent ma passion. Lui-même avale des litres de sa boisson chouchou chaque jour. Étant une personne très énergique, j'apprécie l'effet d'apaisement que le thé me procure. En fait, j'y suis accro. Et que pense son médecin du théisme de son patient? Rien du tout, étant donné que je respire la forme. Alors, là un peu d'humour anglais. Je respire la forme, je cours des marathons et je n'ai qu'une seule carie. Outre ses qualités à la fois toniques et calmantes, le maître thé apprécie la boisson pour son côté très social. Le tea time avec maman autrefois ou aujourd'hui en compagnie de ma douce ou d'amis est chaque fois l'occasion de se retrouver, de se parler, de se confier. Pas de doute, si on venait à prédire l'avenir de Kevin Gascoigne en lisant les feuilles de théier au fond de sa tasse, on n'y verrait que du thé seulement. Monsieur Kevin Gascoigne, marathonien du thé.
Merci Roger.
Je
Marise Letarte qui nous chantait Petit jouet mécanique.
Et oui, puis là, je vois sur le, dans la revue de Serge, Monsieur Patate.
Ah oui, Monsieur Patate. Coeur, alors, écoutez, coeur, on a parlé des jouets modernes tantôt.
Oui, c'est pas le jouet mécanique.
Up to date. Alors maintenant, on va retourner en enfance avec des jouets indémodables.
Yay!
Et aux côtés des jouets de plus en plus sophistiqués, ceux qui ont bercé les jeunes années de gens qui sont plus vieux, pas moi là, continuent de remporter du succès. OK? Alors, les deux experts qui ont testé les jeux là sont unanimes. Il y a aussi un aspect profondément rassurant dans le fait de revenir à des jouets simples qui ont traversé l'épreuve du temps. Un paradoxe pour les plus jeunes parents qui ont grandi avec Internet et assisté à l'essor du numérique. On perçoit l'enfance comme une période d'innocence. C'est l'un des rares moments dans la vie de nos enfants où on sent qu'on peut les protéger du danger, de la violence, mais aussi de la technologie et de la dépendance qu'elle peut engendrer, relate Sandra Chang-Credle. Damien Allegate, ou Allegate, est du même avis. La technologie peut être anxiogène. Si elle arrête de marcher, on ne sait pas comment la réparer. Ça nous dépasse. Alors, mais les bons vieux jouets, eux, on peut se les représenter très concrètement. On pourrait presque les fabriquer. Ils nous raccrochent à quelque chose de sécurisant. Et on sait ce qu'on donne à notre enfant. Dans un univers où tout va très vite, où les nouveautés se succèdent, le retour à des valeurs sûres, testées et approuvées aurait un effet similaire à celui que l'on ressent en mangeant de la bonne soupe au poulet de maman. C'est d'ailleurs la comparaison qu'a utilisée la Toy Association pour parler de la nostalgie millénariale, définie par cet organisme américain comme l'une des grandes tendances 2018 dans l'industrie du jouet. Et ce qu'il y a de plus fascinant dans le rétro-marketing, conclut Damien Allegate, c'est qu'ils mettent à mal toute la logique marketing qui dit que le meilleur est devant dans l'innovation, alors qu'ici, on avoue que certains produits du passé ont une valeur identique, voire supérieure, aux produits actuels. Et c'est une forme de désaveu. Et les jouets classiques ou rétro sont une façon, à une certaine échelle, de ralentir la marche du progrès et de se dire, finalement, que c'était aussi très bien avant. Et dans le magasin de jouets Tic-Tac-Toc de la rue Masson, à Montréal. Ils sont tous là, prêts à être glissés, bien emballés sous le sapin de Noël. Il y a Monsieur et Madame Patate.
Oui.
Avec leurs gros yeux globuleux. Autrefois, on utilisait la vraie patate. Hein? Ah ouais, quand c'est nos mondes, cette affaire-là. Le Monopoly. On a acheté des hôtels. Dans toutes les versions possibles de Ghostbuster à Zelda. Les petites pouliches aux crinières multicolores. Les Lego et Playmobil sous toutes leurs formes. Il ne manque que le visage souriant du téléphone à cadran Fisher-Price pour compléter la photo de famille. Commercialisé en 1961 et réédité en 2014, en même temps que quelques produits phares de la marque américaine, celui-là ne reste jamais très longtemps sur les tablettes parce que dès qu'on le reçoit, il est vendu. Sur le tutu, chapeau pointu. Est-ce que j'ai terminé?
Oui, merci bon. Serge. Alors, nous terminons cette dernière émission des Voix de service avec un cadeau. C'est Émilie Dubreuil qui nous offre une belle histoire. Elle fait de la randonnée pédestre et elle nous raconte une rencontre qu'elle a eue avec Brigitte. La première fois que j'ai entendu les premiers chapitres de l'histoire de Brigitte, nous étions quelque part dans l'immensité des Chic-Chocs. Tu fais quoi dans la vie? Je suis traductrice. Ça, c'est mon métier, mais je viens de vivre quelque chose d'absolument extraordinaire, un truc que j'ai attendu toute ma vie. La marche génère des conversations qui s'éloignent rapidement des banalités. Brigitte, 54 ans, a été adoptée par une famille qu'elle décrit comme formidable, aimante et généreuse. Mais du plus loin qu'elle se souvienne, elle a toujours rêvé de retrouver ses parents biologiques. Pourquoi? parce que c'était comme s'il y avait un fantôme qui vivait en moi. Mon miroir me renvoyait une image lisse, il y manquait le passé, l'origine, l'original. Dans les années 80, la loi change et elle réussit à obtenir des antécédents biologiques non identificatoires. Une expression de jargon qui veut dire qu'un enfant adopté peut obtenir tous les renseignements sur ses parents que les services sociaux détiennent, sauf ceux qui permettraient à l'enfant de les identifier. Au début des années 90, elle a su que son père avait 31 ans quand elle est née, qu'il n'avait pas étudié après le primaire, qu'il venait d'un milieu rural. Elle a appris que sa mère avait 24 ans quand elle est née. C'est très vague. Les années passent, une nouvelle loi est adoptée encore. Dorénavant, à la demande d'un enfant adopté, les services sociaux peuvent contacter la mère biologique. En 2005, elle reçoit un appel. Une travailleuse sociale insiste pour lui parler chez elle. Elle apprend à Brigitte Castillo que sa mère est décédée 6 ans après sa naissance par suicide. « J'avais jamais envisagé cette option-là. C'était comme un tremblement de terre. La dame n'a pas voulu me donner son nom, mais elle m'a dit que ma mère avait un prénom vraiment rare. La suite fut palpitante, déchirante aussi, mais je suis devenue celle qui trouve. Pour une raison inconnue, appelons ça un cadeau. Chaque pierre retournée révélait un nouvel indice. Chaque nouvel indice s'emboîtait parfaitement aux autres indices. Mon histoire s'écrivait sous mes yeux. Mon arbre biologique prenait racine. On avait tiré mon nom dans le grand chapeau cosmique. » Facebook, on le dénigre souvent, mais Facebook y est pour beaucoup. Elle trouve des groupes qui aident gratuitement des adoptés à faire des recherches. On les appelle les Search Angels ou anges de recherche. La mère de Brigitte a un prénom rare, elle est morte à 30 ans, etc. Elle trouve une Lys, L-Y-S, Bolduc. Les frères et les sœurs de cette femme qui ont eu des enfants. Brigitte en trouve un sur Facebook, lui écrit, il accepte de passer un test d'ADN, bingo, c'est son cousin. Elle est bien la fille de Lys Bolduc. Elle va chercher le rapport du coroner sur la mort de sa mère et y trouve le nom du fiancé de sa mère lorsque celle-ci est décédée. Elle le cherche sur Google, tombe sur la rubrique nécologique et cherche sur Facebook. Rebingo, cet homme est bien son père, apprendra-t-elle. À peine 2 semaines plus tard, elle rencontre ses tantes et puis son demi-frère. Je les regardais et je souriais. C'était étrange et familier à la fois. C'était surtout la première fois que j'entendais quelqu'un me dire « Mon Dieu, que tu ressembles à ta mère ». Brigitte m'a envoyé sur Facebook une petite photo prise dans un photomaton de son père et sa mère biologique qu'elle a encadrée et qu'elle a déposée sur le manteau de sa cheminée. Quand je la regarde, je souris. Ce cadeau-là, l'image des deux visages qui ont créé le mien, je l'ai attendu toute ma vie. Joyeux Noël, Brigitte. Quand la neige fondra, tu me raconteras la suite. Et Émilie Dubreuil qui souhaite joyeux Noël à ses lecteurs, à vous et à toutes vos familles. C'était Émilie Dubreuil dans la chronique « Sale temps pour sortir », ça s'intitulait « Le plus beau cadeau » et c'était publié dans Le Voir.
Le feu danse dans la cheminée. Dehors, on tremble de froid. Nuit de Noël, sapin parfumé partout, tu fais naître la joie. Et au réveillon, pour les amoureux sous le gui, les baisers seront permis. Les enfants, le cœur vibrant d'espoir, ont peine à s'endormir ce soir. Le Père Noël s'est mis en route sur son traîneau chargé de jouets et de cadeaux. Et les petits le guettent et ils écoutent la ronde folle des reines dans le ciel. Et moi, pour vous, je fais ce simple vœu qu'on échange depuis l'enfant Dieu. Jeunes et moins jeunes, soyez tous très heureux, joyeux, joyeux Noël. Le Père Noël s'est mis en route sur son traîneau chargé de jouets et de cadeaux. Et les petits le guettent et ils écoutent la ronde folle des reines dans le ciel. Et moi, pour vous, je fais ce simple vœu qu'on échange depuis l'enfant Dieu. Jeunes et moins jeunes, soyez tous très heureux, joyeux, joyeux Noël. Joyeux, joyeux Noël.
Extrait de la compilation Voix de Noël, on vient d'entendre Charlène Blanchette avec sa reprise de Joyeux Noël.
Bon, mais Serge, vous nous donnez le goût maintenant de... d'acheter les cadeaux?
Ben, alors, écoutez, c'est le temps, allez, c'est la période. Alors, vous n'aviez pas acheté vos cadeaux. Plus de 300 jouets ont été...
Sortez vos cartes de crédit.
Plus de 300 jouets ont été testés par Protégez-vous. Et voici une sélection des meilleurs jouets qu'on a évalués dans le bricolage, dans les instruments de musique, dans les jeux de construction, dans les jouets électroniques. Le meilleur dans le bricolage est feutre magique, les habits d'Eliott et de Zoé. $26. L'enfant colorie les vêtements des animaux à habiller, puis y ajoute des motifs qui changeront de couleur grâce au crayon blanc. C'est beau, hein? Mm-hmm. Instrument de musique, Animambo, de 3 à 6 ans, $28. Instrument en forme de chat, attrayant et coloré, son agréable et juste. Dans les jeux de construction, la parade de l'éléphant, de 1 à 3 ans, $31. Un bel éléphant sympathique qui roule bien et les blocs sont faciles à emboîter. Les jouets électroniques, Gontran, mon dino gourmand, animal sympathique qui roule bien, son amusant et mélodie entraînante, $26. Dans le domaine des véhicules, Wheeze, de 1 à 3 ans, $29. Ensemble de 4 voitures colorées, dotées d'un moteur à ressort pour ajouter de l'élan. Pour le bain maintenant, Teddy's Umbrella Stackers, de 1 an et demi à 3 ans. Oh, c'est trop jeune pour nous, ça. Hein? Ensemble pour le bain, comprenant un ourson qui tient un parapluie, une bouée et 4 parapluies gigognes. 3 percées de trous et un qui sert d'écope. Comprenez-vous quelque chose, vous? Ensuite, les jeux de société, c'est Sushi Dice, 6 ans et plus, $25. C'est un jeu de lancer de dés complètement fou où il faut quand même réfléchir un peu, mais rapidement. Et le dernier, OK, la légende du Wendigo, de 6 à 9 ans, $25. C'est un jeu de mémoire original et les scouts se ressemblent juste assez pour confondre les joueurs. Hey, hein? Alors là, on sait quoi acheter, hein?
Je poursuis ma petite tournée de la francophonie canadienne. Ah
oui. Mais si je peux, je vais t'interrompre une toute petite seconde. J'aimerais préciser aux auditeurs, pour ce qui est de Protégez-vous, ce qu'ils ont de très bien que j'ai appris récemment, c'est que pour tout ce qui est jouets, c'est disponible gratuitement sur leur site Internet. Contrairement aux autres articles, généralement, il faut être abonné, il faut être membre de Protégez-vous, mais ils ont gracieusement accepté de rendre toutes les critiques de jouets disponibles gratuitement pour tous.
C'est gentil. Ben oui. Alors, je poursuis avec ma petite tournée canadienne de la francophonie. Il y a des provinces qui n'en ont pas beaucoup, hein. Si on regarde la Saskatchewan, 1,6% de francophones. Vers l'histoire, c'est vers 1750, les Français explorent la Saskatchewan. Ils y expérimentent la culture du blé, une récolte qui fera la renommée de la province au 20e siècle. L'arrivée des premiers représentants de l'Église catholique en 1818 donne naissance à des missions permanentes. À la fin du 19e siècle, des francophones de diverses souches créent des communautés dans le sud de la province. Au cours des premières décennies du 20e siècle, les francescois voient leur droit à l'éducation en français sévèrement limité et se dotent d'institutions pour survivre. Ils sont environ 17 750, 1,6% de la population des francophones en Saskatchewan. Et Roger?
Bon, un coup de main. Comment déménager une librairie de façon écologique? En créant une chaîne humaine. En octobre dernier, 250 personnes se sont alignées sur un trottoir de la ville anglaise de Southampton pour transférer 2000 livres vers le nouveau local de la librairie sans but lucratif situé 150 mètres plus loin. Selon le compte Twitter de l'établissement, l'opération a été effectuée en une heure.
Et je vais vous surprendre, oui. Il y en a 1,6 de francophones, oui. Mais au territoire du Yukon, il y en a 5,1.
Regardez ça.
Ah ben ça, 5 fois plus. Ça, j'avoue que vous me surprenez.
C'est surprenant, hein?
Ah ben oui.
À la fin du 19e siècle, 40 000 personnes migrent vers les champs aurifères. Ah, c'était l'arrivée vers l'or.
Ah.
Ce qui amène le gouvernement canadien à créer officiellement le territoire du Yukon en 1898. Une nouvelle société émerge. Les francophones y jouent un rôle d'ingénieurs, enseignants, prospecteurs, aventuriers. En 2007, le gouvernement territorial a proclamé le 15 mai journée de la francophonie yukonaise.
D'abord.
Aujourd'hui, les francophones de langue maternelle sont environ 1800. Et voilà.
Ah bon?
5,1.
Il fait froid au Yukon, hein?
Un peu.
Oui, est-ce que c'est là que vient le Père Noël? C'est de là que vient le Père Noël?
C'est l'Alaska.
L'Alaska?
Oui, mais oui, c'est un Père Noël américain. Alors, écoutez, à tous nos auditeurs, j'aimerais bien vous souhaiter... Et tout le monde en cœur, on pourrait bien leur souhaiter... joyeux Noël d'extraordinaires fêtes!
Quel cœur extraordinaire!
Prenez le temps de vous reposer, mangez de la tourtière, mangez des boulettes, mangez du ragoût...
La dinde,
et de la dinde et tout. Et embrassez vos proches. Dites-leur que vous les aimez.